7h15 minutes, on va revenir avec, disons, cette nouvelle qui fait tant jaser depuis le week-end, c'est-à-dire la disparition des véhicules à essence. En fait, la vente de véhicules neufs à essence à compter 2035 qui sera interdite. Pierre-Yves, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il faut que les gens se calment un peu. Là. Les technologies changent en 15 ans. Là. Regardez ce qui existait il y a 15 ans.
Hey, il y a 15 ans, là. Non, mais pensez-y, là. L'autre affaire, c'est le dernier véhicule électrique à essence à des fins personnelles en 2035.
Ouais.
Mais comme un véhicule à essence, on s'entend au Québec, disons que tu roules pas mal 8-10 ans, donc tu es rendu en 2045. Moi, Paul, en 2045, je vais avoir 66 ans, puis quand je suis né, je tapais à dactylo. Est-ce que les gens ont perdu la proportion d'évolution technologique? On est rendu présentement au niveau économique, c'est-à-dire au niveau du portefeuille. Là. Si les concessionnaires et les constructeurs s'y mettaient, puis avaient les ressources de batterie présentement, puis on était capable de faire des véhicules bas de gamme, parce que présentement, les véhicules...
C'est ça beaucoup la question qui revient, là, c'est que combien ça va me coûter ce véhicule-là, là, malgré que le gouvernement donne des subventions. Là. Bien,
présentement, les constructeurs, prends Toyota par exemple. Toyota ne veut pas vraiment vendre de véhicules électriques pour l'instant. Tu as un hybride rechargeable, ça va. Mais on se dit, écoute, je suis bien mieux de vendre beaucoup plus d'hybrides pour l'instant pour la même quantité de batterie. Donc, ce qu'on regarde au niveau présentement, c'est de l'évolution. L'autre point, c'est que présentement, il y a le marketing du fait que on te vend un véhicule électrique plus cher parce que ça va compenser un jour pour l'essence que tu ne paieras pas. Mais éventuellement, ce calcul-là ne sera plus du marketing. Tout le monde va être électrique. Et la technologie, en 15 ans, va évoluer grandement. Là. On est loin de la première Volt aussi. On est loin. Là, il y a eu des problèmes avec la Bolt dans les derniers jours. Donc, évidemment, ça fait jaser. Mais l'autre question, c'est, OK, disons, là, parlons station-service, Paul. Tu as des stations-service qui se bâtissent aujourd'hui. Le message qu'elles viennent d'avoir, c'est que dans 15 à 25 ans, votre modèle d'affaires n'existe plus. Donc, d'ici là, on va aussi payer implicitement la rentabilité de ces stations-là avec le marché d'offre de la demande. D'autre point, c'est que le gouvernement, moi, l'annonce qui était vraiment intéressante, c'est de dire, comptez pas sur le rabais de 8 000 $ pendant encore beaucoup d'années. Et ça, c'est un signal à l'industrie. Parce que pour l'instant, l'industrie prend le prix des voitures qu'elle vend à essence, les prix des voitures hybrides. Et là, ils se disent, bon, avec la subvention, l'économie d'essence, combien le client est prêt à payer? Et donc, le gouvernement aide à maintenir le prix des véhicules électriques à un prix plus élevé en subventionnant le particulier. Par contre, au niveau de l'offre et la demande, Paul, ça aide le Québec. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que sachant qu'au Québec, on a un gros programme de subvention, les constructeurs dirigent plus de véhicules par ici parce qu'il y aura plus de ventes. Et l'autre point, regardons ça plus loin, au niveau collectif, société, économie. La hausse du nombre de véhicules électriques au Québec donne implicitement une réduction de notre dépendance au pétrole, donc l'effet négatif de la balance commerciale, aide le Québec à justifier son investissement dans le lithium, point, hausse les revenus d'Hydro-Québec, nous permet d'utiliser l'hydroélectricité pendant la nuit parce qu'on va recharger nos véhicules, le moment où on demande peut-être un peu moins au réseau. Et donc, pour le Québec, c'est super. Maintenant, peut-être M. Pinault va nous aider tantôt, là. Qu'est-ce qui va être considéré comme un véhicule commercial ou pour fin d'affaires?
Ben là, c'est ça.
Est-ce que Pierre-Yves, qui met un F sur sa plaque de véhicule de compagnie, peut maintenant dire qu'il y a un véhicule à l'essence à des fins personnelles? Mais de toute façon, dans 15-20 ans, je pense pas, le pauvre, ce sera pas un enjeu. Présentement, il y a le problème de l'hiver. Les gens qui ont des Tesla m'écrivent pour dire « Regarde, Pierre, ma batterie l'hiver, là. C'est pas la promesse de la batterie l'été. On n'est pas en Californie. Il y a une chute importante. » Mais, au niveau des véhicules commerciaux, maintenant, est-ce qu'on va rester au diesel? Est-ce qu'on va accepter comme collectivité de passer au gaz naturel pour réduire les émissions tout en continuant à faire des émissions, mais en ayant une autonomie? J'ai hâte de voir ça.
Parle-moi donc de l'année qui se termine, qui est une année importante pour le don.
Bien, en fait, c'est pas une année importante. C'est une année ultra importante pour le don parce que, présentement, les soupers spaghettis, les soupers bénéfices, la porte-à-porte, tout ça est annulé. Toute la visibilité dans les centres commerciaux, tous les programmes de vente de fleurs. Tu sais, vous savez, votre père, votre beau-père qui apporte des fleurs à votre mère une fois par année parce que c'était la journée de la jonquille, là. Ça, c'est fini. Non, mais toutes ces affaires-là ont perdu leur visibilité, les courses, les nuits blanches. Donc, je voulais vous parler de fiscalité. Si vous avez une compagnie, présentement, dites-vous que si vous faites un don au nom de votre compagnie, je l'ai fait 5 secondes avant la chronique, Paul, pour commencer, tu dis, tu fais un don, Ça réduit tes impôts. Bon, dépendant de votre compagnie, là, vous allez réduire entre 14 et 26 %. Donc, votre don de 1000 $ va vous coûter peut-être 750 ou 800 quelques. Mais tu sais, on s'entend, il y a une réduction quand même. L'autre point, c'est qu'à des fins personnelles, si vous faites un don de 200 $ et moins, il y a un avantage fiscal combiné provincial et fédéral qui vous permet d'avoir un crédit d'impôt non remboursable. Ce qui veut dire que on va réduire votre impôt à la fin de l'année, mais c'est moins important sur le premier 200 $. Sur votre premier 200 $, au net, ça va vous coûter 134,95. Mais si vous faites un don de 400 $, votre don de 400 $ va vous coûter moins cher. Il va vous coûter seulement 238,52. Alors, ce qu'on tient à montrer ici, c'est que il y a un avantage fiscal, vous payez quand même. Là. Personne ne va se faire rembourser de l'argent plus que le don. Là. Vous payez, faites quand même un don honnête. Mais dites-vous que c'est comme une façon d'orienter vos impôts. De dire, bon, moi, si je donne 200$ à tel organisme, je fais que l'ensemble de la population québécoise et canadienne donne à cet organisme-là en réduisant mes impôts. Alors, il y a quelque chose de beau là-dedans. Donc, adoptez une compagnie cette année. Allez sur Internet, et c'est facile, Paul. Tu vois sur le site Internet de... pas la compagnie, mais plutôt l'organisme à but de caritatif, disons. Tu cliques sur « Faire un don », tu entres ton numéro de carte de crédit, puis tu payes sur « Envoyer ». Ça prend à peu près 50 secondes. Donc, dites-moi pas que vous n'avez pas le temps ce matin.
Juste te dire qu'on a eu on avait eu les résultats préliminaires, mais on a le chiffre final pour l'opération sous zéro, les manteaux, avec le centre communautaire Hochelaga. On a triplé par rapport à l'an passé.
Tu vois?
Les gens étaient extrêmement généreux, puis on est... Je pense qu'on est tous surpris. Ça fonctionnait bien année après année. Mais cette année, là, c'est presque 200 000 $ d'accumulés.
C'est bien. En plus, Paul, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens cette année qui ont particulièrement
besoin,
pas d'argent.
C'est vrai.
Et donc, ceux qui en ont, c'est peut-être le temps d'en donner plus.
Merci, monsieur.
Salut.
Salut. 7h22.